Bonsoir.
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 Bienvenue pour ce nouveau podcast de Perdusa, consacré comme à l'habitude à l'actualité américaine des séries télé. Pour parler de ce mois de Sweeps, j'ai autour de moi Lisa.
Bonsoir.
Conundrum.
Bonsoir.
Tigrou.
Bonsoir.
Nous allons parler, comme d'habitude, de moi.
Et toi ?
Nous allons parler comme d'habitude de Veronica Mars, de Gilmore Girls, de Survivor, peut-être de Battlestar Galactica si on a le temps. Auparavant, on fera une page spéciale sur NBC et toutes les nouvelles séries que la chaîne a mis à l'antenne à la rentrée, sauf Kidnap qui a été annulé au bout de 3 épisodes, 4. Mais auparavant, comme dirait Julie Chen, but first... Et donc si nous allions au centre commercial avec Robin de How I Met Your Mother pour un épisode plutôt spécial de cette semaine qui était drôle, c'est sûr c'est spécial, et qui possédait un petit plus puisqu'il y a eu un clip assez marrant à la fin, un vidéoclip assez marrant. Racontez-nous pourquoi cet épisode était réussi. Tigrou,
cet épisode était réussi parce que d'une, j'ai rigolé plusieurs fois pendant l'épisode, ce qui m'arrive très rarement ces temps-ci devant How I Met Your Mother. De deux, je n'ai pas eu envie de lancer des fruits pourris sur Alison Hannigan à chaque fois qu'elle apparaissait à l'écran, et ça c'est vraiment très rare dernièrement dans la série. Et troisièmement, c'était centré sur le seul bon personnage finalement de How I Met Your Mother, qui est Robin, parce qu'on peut dire tout le bien qu'on veut de Barney.
Oh non,
le seul personnage vraiment drôle, c'est Robin.
Oh non, non, Barney est beaucoup plus drôle que...
Tu m'en voudras si Robin. Je suis d'accord avec...
Oui, énormément, je ne t'aimerais plus jamais.
Donc Barney, c'est le plus drôle de la série.
Voilà, merci.
Moi, comme je suis amoureux de Lisa, c'est pareil, je peux être d'accord avec Tigrou. C'est vrai que Robin, c'est le personnage le plus drôle de la série parce que on n'attend pas ses blagues à 2000 km. Effectivement, celles de Barney, elles peuvent être surprenantes, mais c'est toujours sur le même registre. Mais cet épisode, malgré tout, était très très drôle. Enfin, la révélation finale était très très drôle.
Mais de quoi il parle cet épisode ?
C'est une bonne question, n'est-ce pas, Tigrou ?
Oui, tout à fait. Alors, cette semaine, on apprend que Robin a un secret. Alors, évidemment, c'est les sweeps, donc on se dit le secret, elle a sa mère qui est dans le coma, elle est mariée, elle a tué son ex, elle a un enfant illégitime. Eh ben, pas du tout, puisque le secret de Robin, c'est que...
Il faut le dire, le secret de Robin, pour...
Mais oui, peut-être pas. En même temps, on l'a fait écouter aux gens.
Bref.
Donc, le secret de Robin, c'est qu'elle a été une teenage pop star au Canada. Et voilà, ça... Ça se raconte pas, il faut écouter le clip et le voir.
Et le voir, parce que les années 80 sont arrivés très tard au Canada.
Et pour ceux qui veulent le voir, il y a le lien sur le forum de Perdusa.
Oui.
Vers la page MySpace de Robin Sparkle.
Vous pouvez même aller sur YouTube, puisque le clip proposé a été proposé directement par CBS, donc rien d'illégal là-dessus. Vous pouvez regarder Robin dans toute sa splendeur. Voilà. Mm-hmm. On passe à NBC. NBC, le network phare des années 90, qui s'était effondré les deux dernières années d'un point de vue à la fois des audiences et créativement, puisque l'on se rappelle des derniers programmes mis à l'antenne qui étaient The Apprentice, Martha Stewart, Surface, Deal or No Deal, tout ce genre de choses, Lax, Hawaii, des grandes séries qui avaient continué d'enfoncer le network de The West Wing et Urgence dans les abysses des audiences. Cette saison, cette rentrée est plus originale que d'habitude. On a des nouvelles dramas qui ont été renouvelés pour la plupart, sauf Kidnap. Studio 60, Heroes et Friday Night Lights ont toutes les trois une nouvelle saison, une saison entière d'épisodes. Et puis deux sitcoms, l'une qui est mourante, qui s'appelle 20 Good Years, et dont on va parler tout de suite.
Je vais plagier Drum, je vais reprendre ce qu'il disait en disant que 20 Good Years a des acteurs qui sont bien supérieurs au scénario qu'on leur donne.
Ces acteurs sont
John Lithgow de Troisième Planète après le Soleil, une série culte des années 90, ouais. Et Jeffrey Tambor du cultissime Aristide Development. Et du Larry Sanders Show, exactement. Et au final, ils ont une telle personnalité, une telle présence à l'écran, et on sait tellement ce qu'ils sont capables de faire, qu'avoir que leur donner une sitcom qui est très bonne au demeurant, qui a des très bons scénarios, qui a des bonnes idées, qui a des répliques qui sont parfois à mourir de rire et qu'on aimerait bien avoir dans *How I Met Your Mother*. Non, mais c'est vrai. De savoir ce qu'ils sont capables de faire à côté de ça et de ne leur donner que ça au final, c'est un petit peu frustrant. Mmh. En même temps.
Attends, c'est le début, ça fait plus
voilà.
Six épisodes.
Donc on peut peut-être attendre que la chose prenne toute sa place et que.
Sauf que NBC pour l'instant a.
Mis en hiatus.
En hiatus.
Mais je pense que maintenant, de la part des networks, mettre en hiatus, c'est. C'est la version politiquement correcte de dire qu'on ne croit plus du tout à la série, qu'elle est annulée, qu'on ne diffusera plus jamais des nouveaux épisodes.
Surtout là, on voit pas un relancement en mi-saison de la série en fanfare.
Non, ça paraît complètement impossible. Elle a été diffusée le mercredi à 8h associée avec 30 Rock. Les audiences ont été désastreuses pour les deux. NBC a l'air de plus croire en la série créée par Tina Fey, qui se situe dans les coulisses d'une émission de sketch. Qui s'appelle le Girlie Show, au tout début du premier épisode. Cette série créée par Tina Fey, donc je l'ai dit, une ancienne du Saturday Night Live, donc elle doit savoir être drôle et savoir de quoi elle parle. Cette série, qu'en pensez-vous?
Bah, c'est un peu comme 20 Good Years, une série qui a beaucoup de potentiel, mais qui ne l'exploite pas trop au début. Et en revanche, au fur et à mesure des épisodes, on voit vraiment... une volonté de faire quelque chose d'original et d'être drôle, et avec Baldwin est ahurissant dedans.
C'est la grande qualité de la série, c'est la performance comique d'Alec Baldwin à chaque épisode.
Pas que lui, enfin Alec Baldwin, bon moi j'aime beaucoup Tracy Jordan, donc Tracy Jordan qui fait du Tracy Jordan, on n'aime pas, moi j'aime beaucoup. Tina Fey dedans, Tina Fey qui a écrit et joué dans Mean Girls. Un très bon film aussi.
Lolita malgré moi de son titre VF, mais un très très bon film au
demeurant.
Il est
quand
énorme.
Acheté en DVD. Hein.
Il est énorme.
Et aussi super doué dedans, sachant qu'à l'origine, elles sont même pas à interpréter le rôle principal. Le seul reproche que je faisais au début à la série, c'est d'avoir remplacé Rachel Dratch de Saturday Night Live par Jen Krakowski. En gros, NBC voulait un visage qui soit un peu plus connu, un peu plus agréable à regarder que Rachel Dratch qui un canon de beauté. Et finalement, bah, dans le dernier épisode, Jen Krakowski a réussi à elle aussi faire sa marque dans la série. Et c'est très très bon pour l'instant.
Enfin, le dernier épisode m'a fait mourir de rire. Simplement, c'est que le cinquième et les quatre premiers sont vraiment désastreux. Il y a un petit passage dans le troisième, une histoire de quiproquo autour de l'orientation sexuelle de Tina Fey.
Alec Baldwin qui joue au poker.
Ouais, super.
C'était super drôle.
Mais globalement, effectivement, de la part de Tina Fey, on attendait vraiment, vraiment beaucoup plus. On attendait vraiment quelque chose de drôle, qui va vite. Les trois quarts des gags sont quand même assez lourds, assez attendus, ça va pas vite. C'est très très décevant. C'est peut-être un problème au niveau de l'attente. On attendait tellement de cette série qu'on est déçu. Donc globalement, maintenant qu'on n'en attend plus rien, finalement, peut-être qu'on trouve que les épisodes sont pas si nuls que ça.
Non, je suis vraiment pas d'accord. Surtout que 30 Rock, c'est une série que j'attends avec un peu plus d'impatience que le nouvel épisode de Studio 60.
L'autre série consacrée aux coulisses d'une émission de sketch, elle aussi, qui a été annoncée, qui avait un buzz énorme, puisque c'est le retour d'Aaron Sorkin à la télévision, et le retour d'Aaron Sorkin sur NBC. Elle met en scène, comme on l'avait déjà dit dans le podcast de cet été, Matthew Perry, Bradley Whitford, tout un tas de... et donc c'est la version drama de 30 Rock.
Et c'est marrant parce que pour la deuxième fois cette semaine, ils ont une intrigue similaire la même semaine. Mais à part ça, c'est deux séries totalement différentes. Difficilement comparables. Mis à part le fait qu'elles ont le même
sujet.
Exactement. Ouais. Merci Théo.
Mais alors, est-ce que 30 Rock, c'est aussi prétentieux que Studio 60?
Oh,
parce que
absolument
moi,
pas.
Ça m'insupporte, cette manie qu'ils ont dans Studio 60. Alors...
Je trouve que c'est un reproche qu'on...
En gros, Studio 60
dont on
essaie d'expliquer
souvent les
comment faire de la bonne télévision, comment
alors...
bien gérer une chaîne de télévision, mais c'est... leur chaîne, elle est nulle. Enfin, leurs sketchs, ils sont pas drôles, ils explosent de rire à chaque fois qu'ils font porter une cigogne à Lorelai Gilmore alors que personne ne rigole à mon avis devant sa télé.
Bah, c'est assez représentatif des émissions à sketch US.
qui sont pas drôles.
Les sketchs ne sont pas... Non, c'est vrai, tous les sketchs ne sont pas drôles dans SNL ou dans MTV. Il y en a que quelques-uns qui se démarquent du lot. Mais je pense que ça va être super dur d'écrire pendant une heure et demie, 5 sketchs qui doivent être tous aussi drôles les uns que les autres. Mais enfin, je trouve que c'est un mauvais reproche pour Suicide parce qu'on regarde pas l'émission pour les sketchs.
Le but n'est pas...
Mais pourquoi est-ce qu'ils
les
montrent alors?
Mais le but n'est pas de faire...
Les sketchs.
Voilà, le but n'est pas de faire une mise en abîme. Mais...
Ils se sont extasiés tous sur à quel point leur émission est géniale, à quel point leur émission c'est la seule de la télévision américaine qu'elle est bien et tout.
Pour moi, ce serait comme regarder Urgence sans qu'il y ait aucun moment on voit les médecins opérer leurs patients. On voit
bien.
Que...
Regarde l'anatomie.
Non, on voit que quelques minutes des sketchs, ils sont pas censés être super drôles. Par contre, là où je te rejoins, c'est que dans The West Wing, c'est bien de parler de la guerre en Afghanistan, de dire que la guerre c'est mal. Dans Studio 60,
oui,
la guerre c'est mal,
d'accord.
Mais c'est pas du tout dans ce genre de série qu'on attend une réflexion politique ou... Je sais pas si tu m'avais
dit. Non,
idée.
Je suis d'accord, mais oui, tu parles de la storyline de Tom Jeter qui était avec son frère, blabla, je suis d'accord, c'était un peu bateau, c'était pas très fin.
Et c'est une reprise de l'intrigue de Dan dans Fortnite.
Mais non, mais ça a duré 3 minutes
surtout
dans l'épisode.
Surtout que ça dure 3 minutes, effectivement, là, c'est un reproche un peu injustifié. Il y a juste le père du personnage qui lui gueule dessus parce que son frère est en Afghanistan. C'est pas du tout au centre de l'épisode.
Alors après, peut-être
effectivement
vous attendiez
plus. Ça permet de mettre toute l'équipe de Studio 60 dans une autre situation, mais c'est juste un prétexte. J'ai pas vu d'attaque super lourde. Je trouve que c'est un reproche.
C'est un truc qui dure 2 minutes dans l'épisode, mais qui est repris dans 2 épisodes encore une fois.
Oui.
Mais là encore. Ouais, mais c'est pas au centre de l'intrigue, c'est pas ça qui est important dans Studio 60, évidemment, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est les dialogues qui sont assez brillants, les relations entre les personnages qui sont plutôt intelligentes, les stéréotypes qui volent en éclats. Mon personnage préféré, à part celui qui était celui de Amanda Pitt, c'est maintenant celui de l'humoriste... catholique, enfin
ouais.
Chrétienne en tout cas, qui se trouve dans une situation très difficile, dont le discours est plutôt fin, c'est-à-dire qu'elle supporte assez mal que Studio 60, dont elle fait partie, se moque justement des gens puritains, en expliquant que ces gens puritains, ils vivent dans des conditions tellement difficiles, ils ont un niveau intellectuel tellement bas, que ça explique le refuge qu'est pour eux la religion. Et que ça sert pas vraiment à grand chose de leur taper dessus. Non mais elle le dit avec ses mots à elle parce que elle est. Non mais globalement effectivement.
C'est vrai qu'il y a un épisode où elle dit à peu près ça.
Mais effectivement c'est un tout petit peu, ça souligne le côté un peu facile de taper toujours sur les mêmes.
Et on voit d'ailleurs dans le double épisode que tu critiques qui se passe au Nevada, je sais plus son nom, enfin le titre de l'épisode, peut-être qu'effectivement la résolution de l'intrigue se penche encore une fois vers le côté du côté de l'Afghanistan et de la guerre c'est pas bien. En même temps, il y a aussi le juge qui était au départ un gros salaud, le puritain de base qui déteste l'émission parce qu'il la trouve prétentieuse, etc. Et au final, il se révèle être quelqu'un de particulièrement, enfin, assez intelligent, qui savait où il allait et qui épate, comment il s'appelle, Bradley Whitford.
Bradley Whitford, oui, c'est là comme ça.
Voilà. Bon, enfin bref,
le personnage
de Bradley,
ouais,
Whitford, j'ai oublié
son
nom. Danny. Voilà, donc.
Non, mais la série n'est pas absolument géniale, c'est pas The West Wing à la télé, c'est juste une bonne série. Effectivement,
oh,
elle est peut-être victime de l'attente qu'elle avait générée.
On voit tout ce qu'on a d'autre à la télé à l'heure actuelle.
Elle est surtout victime de ses ambitions, moi, je trouve. Parce que c'est vrai, c'est une bonne série, il y a de bons personnages, les acteurs sont pour la plupart très bons. Mais moi, j'ai trop l'impression qu'à chaque épisode, ils essayent de dire, oh, bah, la télé, ça devrait être comme ça, et regardez, sinon, on s'en occupait, ce serait quand même vraiment mieux, et la série n'est pas à la hauteur de...
C'est pas forcément... Oui, ils font... regarder ce qui se passerait si nous, on était aux commandes de toutes les chaînes de télé, ce serait ça. Et à notre goût, ce serait mieux. C'est pas... Je trouve pas qu'ils essayent de donner la Bible la Bible que tout le monde devrait avoir. Ils essayent juste de donner leur opinion sur qu'est-ce que devrait être la télévision à l'heure actuelle.
Sauf que cette réflexion, il a déjà eu dans Sports Night, Moi, ce qui m'énerve un peu avec Studio 60, c'est que autant il y avait des ressemblances entre The West Wing et Sports Night, mais on voyait ce que The West Wing pouvait rapporter de nouveau. Là, qu'on a vu et The West Wing et Sports Night, je vois pas ce que ça a de neuf Studio 60. C'est peut-être pas le but d'avoir quelque chose de neuf.
En tout cas, la réalisation de Studio 60, elle tient la route comparée au plan de Sports Night où la série elle est irregardable. Tellement c'est mal réalisé, c'est que des une alternance de gros plans qui durent 4 secondes sur les visages des personnages qui parlent. C'est assez mauvais.
Moi j'avais beaucoup plus de plaisir devant Sports Night que devant Studio 60, parce que Sports Night c'était beaucoup plus drôle que Studio 60, et les messages ils étaient passés un peu plus subtilement.
Et c'était peut-être le format, mais c'était un peu plus rythmé que Studio 60. Ce qui est un peu étonnant dans Studio 60, c'était ce petit côté de lenteur.
Je
m'attendais à quelque chose d'un peu plus punchy.
Mais justement, non, je trouve que c'est très posé, c'est très réfléchi. Et ça va avec la réalisation dont parlait GG qui
ressemble à celle de The West Wing.
Ouais, peut-être, mais c'est une réalisation qui reste magnifique. Il y a des plans séquences dedans qui sont sublimes. On n'en voit pas comme ça dans toutes les séries.
On en a vu 7 ans dans The West Wing.
Voilà, c'est mon argument final.
Non, c'est une bonne série, hein. C'est supérieur à beaucoup de dramas actuels, mais...
Voilà, c'est ce que... Quand
c'est
on
pas
a...
Grey's Anatomy, quoi.
Voilà.
Voilà, exactement.
C'est une bonne conclusion. Studio 60, c'est pas Grey's Anatomy.
Eh ben voilà.
Que dire de plus?
Que Studio 60 ne marche pas si bien que ça dans les audiences, que Studio 60 avait tout pour être à la fois un succès public et un succès critique, et que finalement c'est les deux autres séries lancées par la chaîne qui se partagent ces honneurs-là. En gros, le succès public, c'est Heroes, qui est diffusé juste avant, une histoire de super-héros qui commencent à découvrir leurs pouvoirs. C'est diffusé à 9h, et on n'a jamais été aussi intrigué par les cheerleaders qu'avec cette série. Et puis, le succès critique, c'est Friday Night Lights, mais parlons d'abord de Heroes qui casse la baraque le lundi. Enfin, une série de NBC qui marche, elle bat même CSI Miami chez les 18-49 ans. Chez les 18-49 ans, on se calme, hein. Tous les vieux sont bien devant CBS à 10h. Qu'en pensez-vous de nos amis les super-héros un peu névrosés, gentiment neuneux, qui n'arrivent pas à trouver leur mission, etc. Ils doivent sauver le monde et sauver les cheerleaders.
Je sais pas, moi je regarde pas parce qu'on avait dit que les premiers épisodes étaient lamentables, donc j'ai préféré regarder Ugly Betty.
Le pilote était vraiment très très mauvais, c'est-à-dire que les intrigues étaient platement mises en place, on avait tous les super-héros qu'on attendait, les dialogues étaient... Il n'y avait rien d'extraordinaire, enfin limite,
mais
ils le font
toujours, ça, les dialogues.
Ouais, enfin je vois pas ce que vous reprochez au pilote, parce que pour moi, je trouve que ça ressemble aux autres épisodes.
Mais le problème, c'est que le pilote, c'est vraiment un épisode d'exposition, mais il te présente chaque personnage dans son coin, et finalement, il se passe pas grand-chose, et dans les épisodes suivants, je trouve que ça avance plus, il y a plus de rythme, les cliffhangers sont un peu plus...
Bah, je pense que c'était un peu une étape obligée, parce que le principe de la première saison, si j'ai bien compris, c'est on les fait rencontrer quelques-uns dans leur coin, un, deux, et en fin de saison, ça y est, les X-Men, ils sont tous réunis contre la grosse menace.
Mais dans le pilote, on avait vraiment l'impression qu'ils prenaient leurs téléspectateurs pour des débiles mentaux, parce que le personnage de Claire, la cheerleader, ça s'appelle Claire ?
Oui, ça s'appelle Claire.
Ouais. On voit 3 ou 4 fois se découvrir son super pouvoir, c'est-à-dire, ah bah tiens, je tombe, je meurs pas, tiens, je vais dans le feu, je meurs pas, tiens, je mets ma main dans le mixeur, ma main n'a pas disparu. On était un peu l'impression que les super-héros pour les neuneux, enfin... Mais à partir de là, effectivement, n'attendons plus rien de cette série, et avec une espèce de trouble obsessionnel de comportement qui fait qu'il faut que je regarde quand même les séries que j'aime pas, j'ai suivi le numéro 2, et là j'étais assez surpris, puisqu'effectivement les intrigues vont assez vite, les personnages s'en rencontrent, c'est plutôt rigolo.
En même temps, dans le pilote, pour contrebalancer le fait qu'on voit 46 plans de Claire qui explose son pouvoir, moi, je me suis fait totalement avoir par le personnage de Milo Ventimiglia.
Oh, il y a lui ?
Il y a Milo Ventimiglia.
Oh non. Oh, c'est comme un mèche, lui. Hein. Il faut qu'il arrête de t'aider.
Oh non, il est très bien, Milo Ventimiglia et sa mèche.
Et puis même une triste, c'est pas mal. Hein.
Mais restons sur Heroes pour l'instant, parce qu'on parle d'NBC.
Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y ait pas le générique chanté par Maria Carré. Il y avait la chanson toute trouvée, il n'y a pas de générique, c'est très très dommage.
Non, enfin, pour revenir à Milo... Honnêtement, c'était une belle surprise, c'était un super cliffhanger pour un pilote.
Non, moi je l'avais vu venir. Alors que les cliffhangers suivants, en général, je les vois pas venir.
Pas du tout vu venir, celui-là.
Si. Mais bon, c'est...
C'est pour ça que t'es beaucoup plus intelligent que moi.
Voilà, t'es un peu bébête. Hein. C'est pas grave.
Mais je viens avec.
C'est pour ça que t'es religieux.
Ouais, c'est ça.
Par contre, un reproche qu'on pourrait faire à Hiro, c'est que souvent on a l'impression qu'il démarre une intrigue et que c'est vraiment une intrigue un peu mythologique, que ça va mener le personnage quelque part, et au final on s'aperçoit que c'était du remplissage. Par exemple, l'histoire de la cheerleader qui se fait presque violer et puis elle meurt, alors on la retrouve à la morgue à la fin de l'épisode, ça fait un super cliffhanger, on dit ça y est, tout le monde pense qu'elle est morte, elle va être obligée d'assumer ses pouvoirs, puis finalement elle rentre chez elle le lendemain matin et l'intrigue se délaye sur 3 épisodes et puis c'est fini. Pareil pour la stripteaseuse qui n'est pas une prostituée, elle fait juste des striptease sur internet parce que quand même on est sur NBC et son mari qui fait, il passe à travers les murs, c'est ça?
Ouais.
Moi j'adore cette intrigue. J'aime beaucoup le personnage de Harry Potter. J'aime bien l'histoire de la famille, des super-héros, le gamin qui a un pouvoir aussi répare les...
Et le môme joue super bien en plus, il est pas tête à claque.
Ouais, le môme joue bien. Et moi j'aime bien le personnage effectivement de la stripteaseuse qui a une double personnalité, c'est plutôt rigolo. Maintenant, l'histoire avec la mafia et son mari traîne un peu en longueur et je trouve qu'il serait temps qu'on...
Non, c'est bien parce que cette intrigue, limite on s'en fout parce qu'il a... Bon, en gros, il a pris son môme. Maintenant, on se concentre plus sur la vengeance de Super Stripper que...
Et puis l'histoire de mafia, ça a permis de mettre en contact la stripteaseuse et le politicien, etc.
Et puis c'est fini cette histoire. Ça, c'est un petit truc qui me gêne un peu dans Heroes, c'est que quelquefois, c'est le fait de faire rencontrer des personnages. Quelquefois, c'est de façon assez originale, comme le comme la rencontre de Future Hero avec Milo Ventimiglia dans le métro. En revanche, moi, l'épisode de cette semaine, où à la fin, Milo s'est arrêté, pour moi, j'ai plus vu ça comme une manière de faire rencontrer Milo et le personnage de Greg Grunberg. Je trouvais ça un peu lourd.
Oh là là, et puis Greg Grunberg,
il
est lourd. Oh la vache, il joue mal, il a rien pour lui. Ah, ça, c'est vraiment la grosse erreur de casting. Lui, je le supporte.
Surtout pourtant, j'avais beaucoup l'impression
du Val en face.
Mais... Oh non, pas lui. J'espère qu'il va pas annoncer qu'il est gay. Ni Patrick Harris, je veux bien. Le gars de Grey's Anatomy aussi, mais pas lui, pitié quoi. Là,
c'est la déchéance pour la communauté. Hein.
Ça serait terrible. Vous pensez que qui va être le prochain à annoncer qu'il est gay?
Pete dans Véronique. Hein, n'est-ce pas?
Ah ouais,
Pete dans Véronique Amar.
Il a un jumeau en plus, lui.
C'est vrai? Oh, il pourrait faire des trucs.
Non, non, c'est pas lui.
Non, non, c'est pas grave,
c'est bien avec son jumeau aujourd'hui.
Je le vois bien en mot, lui. Je sais pas pourquoi.
Parce qu'il est beau.
Il a le charisme d'une huître aussi.
Oh.
De rien.
C'est pas bien.
C'est pas gentil.
Pas très gentil en même temps.
Vous,
c'est pas
les
fou,
homos,
hein.
Vous avez aucun charisme.
C'est vrai.
Au moins, nous, les religions,
voilà.
Nous, nous, quoi.
Et puis, nous, les filles.
On a des filles.
Voilà, c'est tout leur intérêt.
C'est déjà beaucoup.
Nous, enfin, pour conclure sur.
Sur Milo Machin, ouais.
Non, sur Heroes.
Ouais, sur Heroes.
Si tu coupes Friday Night Lights, j'ai juste...
Ah ouais, non, il va m'en vouloir, donc je prendrai ma conclusion un peu après.
Bon,
c'est marrant.
Voilà, d'accord. En tout cas, Heroes, c'est pas si nul que ça, parce que ça va vite, et en fait, c'est comme un comic porté à l'écran, et c'est plutôt sympa, sans casser 3 pattes à un canard ou à une autre expression de ce genre.
C'est un peu difficile de parler de Heroes, parce qu'en gros, une fois qu'on a dit que c'est rigolo, c'est marrant à regarder, ça va plutôt vite, comme c'est l'unique ambition de la série, elle y parvient, mais il n'y a pas grand chose à dire.
Un peu comme dans Harry Potter Mother, en fait.
Mais
bon, je dis ça, je dis rien.
Sauf que l'ambition d'être drôle de Harry Potter Mother, elle est remplie un épisode sur 4, donc c'est quand même un échec à ce niveau-là.
Le danger de Heroes, c'est que c'est bien que ça commence avec une grosse audience, parce que si on rentre en mi-saison dans Heroes, je suis pas sûr que le nouveau téléspectateur puisse comprendre. Alors s'ils continuent à construire leur mythologie,
c'est quand même pas super compliqué. Il y a des gens, ils ont des super pouvoirs et ils se rencontrent de temps en temps les uns les autres. Et en gros, maintenant, si on a sauvé la cheerleader, on va pouvoir sauver le monde.
J'ai beaucoup aimé le clin d'œil à Buffy, de la cheerleader qui court en hurlant dans
le couloir
de son
lycée, ouais.
Poursuivi par un monstre. C'était un bon clin d'œil.
Et le succès critique de la saison pour NBC, c'est Friday Night Lights, la série qui se passe justement dans les petits bleds que voudrait défendre la blonde de Studio 60.
Harriet,
voilà. Ça se passe au Texas, il y a des prières collectives, on joue au football américain. Ça devrait être un désastre, C'est la série la plus émouvante qui a été mise à l'antenne depuis 10 ans.
Ah, t'es comme ça.
Ah ouais, à l'antenne sur les networks. Ah, c'est du niveau de subtilité, de qualité d'écriture, d'originalité des personnages de Six Feet Under. Enfin, c'est ça, j'ai vu 5 épisodes. donc j'aurais tout le loisir de dire dans 5 épisodes que la série a vendu son âme, que c'est horrible, qu'elle est nulle, etc. Mais globalement, ces 5 premiers épisodes sont... Je serais gay, je dirais, ils sont absolument fabuleux. Enfin, c'est vraiment, vraiment formidable. Il faut absolument regarder ça. Et puis, si vous voulez, Fertis aussi, elle adore. Donc voilà, ça veut dire que c'est bien. C'est tout. C'est comme ça. Il faut regarder Friday Night Lights le mardi à 8h. Friday Night Lights.
Ah, ça va, tu dis bien.
Et c'est marrant parce que cette saison, NBC se dit, bah, quitte à pas faire d'audience, autant mettre des trucs bien qui marcheront pas. Mm. Et NBC, c'est ce que j'ai lu tout à l'heure, c'est de la... seule chaîne qui a eu une augmentation dans son audience globale. Enfin, c'était si catastrophique l'année dernière que finalement c'est un peu moins catastrophique que...
Friday Night Lights n'a pas commencé avec des scores faramineux, mais petit à petit, chaque semaine, elle augmente son nombre de téléspectateurs. Pour Studio 60, ça s'est stabilisé, ça augmente progressivement. Heroes, ça fait qu'augmenter. C'est l'une des rares...
Finalement, peut-être que sur la longueur, ce sera plus ou moins une bonne idée. Sachant que toutes les séries que NBC a mis à l'antenne ou prévoit de mettre à l'antenne, même si elles sont pas toutes réussites, elles ont toutes quand même quelque chose qui fait que bah, c'est pas Hawaï quoi. Mm-hmm. Même la plus mauvaise pour l'instant, peut-il dire, pour moi, ça reste. On a quand même une raison de regarder la série.
C'est vrai, non c'est vrai.
Bon ouais. Maintenant à la mi-saison, il va y avoir The Single Stable et on a vu le pilote et là on voit pas pourquoi c'est à l'antenne, mais.
Donc en fait, NBC, c'est un peu comme Studio 60 grandeur nature, ils font que de la super bonne voilà. Télévision et ça marche. Donc peut-être que je me suis trompé en disant
ça marche
que Studio
pas
60
très,
est
très bien.
Ça marche mieux que l'année dernière.
Ça marche mieux que l'année dernière. Ça marche mieux que les... non, j'allais dire que les séries... Ça marche mieux que les séries de Fox, hein, ça c'est sûr. Ça marche mieux que les nouvelles séries de CBS. Ça marche mieux que la moitié des séries, les nouvelles séries de ABC. Donc il y a peut-être un espoir qu'en plus ces séries aient une seconde saison l'année prochaine, mais on s'enflamme, parlons des séries qui n'ont même pas leur saison actuelle en entier, parlons de cette pauvre Véronica qui n'aura que 20 épisodes cette année, 20 épisodes, on se dit, c'est beaucoup cette année, il faudrait mettre fin à ses souffrances à Véronica, la tuer le plus vite possible, et s'en débarrasser.
On en est vraiment là, hein, je trouve, dans la saison 3. Véronica, depuis 3-4 épisodes, je pense, et a claqué, mais comme une Rory saison 6, quoi.
Mais c'est trop bien qu'elle
elle est à claquer, mais c'est insupportable.
Bah, à l'image du générique, quoi, elle est prétentieuse, elle est... Ah, c'est horrible. Elle se la raconte depuis qu'elle est à la fac, avec leur nouveau générique.
Ah, oh, il est magnifique, horrible. Leur générique. Non,
il est
sublime. C'est le seul générique de série que je regarde à l'heure actuelle, avec Oblivative en même temps, que je laisse... sublime ce générique, il est à
tomber. Si beau, mais que ce soit visuellement ou les musiques,
tout, il est sublime.
En plus, c'est le générique qui sert à rien puisqu'il nous présente tout un tas d'acteurs qu'on ne voit jamais. Tout ce qu'on voit.
Alors là, il faut bien le générique pour te rappeler que Mac, oui, elle est toujours dans la série, qu'elle n'a pas été violée et assassinée dans le deuxième épisode, parce que sinon, comme on l'a pas vu depuis 5-6
épisodes, je pense, hein.
On s'inquiéterait un peu.
Non mais c'est parce qu'elle tombe dans la nouvelle saison de Big Love.
Oui mais ça...
On a quand même Véronica qui nous dit « Ouais non Mac là, allez je t'attends. » Ah ouais tiens non Mac là, elle révise.
Mon équipe préférée c'était quand même « Mac est au sport avec Parker ». C'était ma préférée.
Bon alors cette intrigue du viol elle arrive à sa fin, sa conclusion c'est...
Eh ben en fait non, prochaine. C'est à peu près ça là, apparemment.
Ah bon prochaine, bah...
Il y a beaucoup de viols qui ont été résolus, hein. Eh ben en fait non.
Non, il n'y en a qu'un seul qui a été résolu.
Ah,
bah justement.
Ça, moi j'ai compris comme toi.
Bah, il y en a plusieurs. Ah non, il y en avait plusieurs.
Il y en a plusieurs qui ont été.
Moi c'est ce que j'ai compris, mais
moi,
après.
C'est pas du tout ce que... Mais moi justement, j'ai beaucoup apprécié ce passage dans l'épisode où Rob Thomas nous dit, entre guillemets, aux téléspectateurs, nous fait un clin en disant vraiment, pour ceux qui pensaient que c'était les féministes qui étaient derrière les viols, ce sera pas si nul que ça la conclusion. Parce que.
C'est un peu pourri quand même, hein, ce qui fait.
Bah...
En fait, il y en a qui ont été mis en scène, que ce soit un ou plusieurs.
Ben, si, c'est lié par rapport à une vengeance à des frat boys.
Ouais, mais dans ce cas-là, tu ne l'annonces pas comme ça, tu fais faire une enquête à Véronica au lieu de lui faire une.
Elle a déjà fait une enquête.
Elle a fait une petite enquête et.
Ouais, mais pas. Enfin, elle était rapide son enquête.
Mais
quoi,
on savait déjà depuis deux ou trois épisodes qu'il y avait un des viols qui avait été simulé. Enfin, c'était plutôt évident que celui de la blonde.
Je sais pas, j'ai pas été convaincue par. Par cette intrigue-là, et surtout par la semi-conclusion. Qui lui ont donné ça, je sais pas.
Pour l'instant, on n'a pas la conclusion parce qu'on sait qu'il y a un vrai violeur.
D'où la semi-conclusion.
Ouais. Puis la semaine prochaine, il y aura la vraie conclusion.
Voilà.
Enfin, moi, mon gros souci dans la série, c'est les personnages principaux. C'est à la fois Véronica et c'est surtout Logan.
Logan ensemble.
S'est transformé en une espèce de carpette abominable. C'est inquiet pour Véronica. Et j'ai fait un truc très mal, mais j'ose pas t'en parler. Mais il faut que je t'en parle pour que tu sauves mon ami. Oh mon Dieu, on a mis le feu à un hôtel. Super. Il a perdu tout son intérêt. Et puis bon, alors Véronica, effectivement, c'est bien qu'elle soit devenue odieuse et conne. C'est... Oui, ça aurait été sympa un épisode, mais bon, voilà. Là, effectivement, tout ce qu'on espère, c'est qu'elle se fasse violer une deuxième fois, et puis comme ça, on en parle plus, c'est bien fait pour elle. Je la supporte plus, et en plus, je trouve que Christine Bell la surjoue, enfin,
ouais.
Elle est odieuse. Quand elle parle à son père, qu'elle fait
«
t'as couché avec une femme mariée, c'est horrible, t'es trop méchant », on est là, mais... Pofi, t'as quel âge pour penser ce genre de choses? T'es pas Delia de Everwood?
Elle a trop raison parce que c'est
la lectrice.
Ah oui, c'est mal d'accoucher avec des gens mariés.
Non, parce que depuis qu'elle travaille avec son père, elle voit c'est quoi les losers qui.
Oui, d'accord, mais tu sais, ils l'ont déjà fait une fois, c'était très très bien, mais qu'ils viennent pas nous. Est-ce que c'était saison 2? Non, c'était début de saison.
Il a déjà fait.
Ça a déjà été traité, ce genre de choses. Ah si, quand elle met un bug dans la voiture de. De Logan.
Non, c'est pas
non,
ça que je veux dire.
Ah,
là,
ça,
sur le fait que elle n'aime pas que son père couche avec une femme mariée, c'est que pendant toute sa carrière en tant que détective privé, elle fait que ça. Le plus gros son travail, c'est de faire découvrir à des femmes que leurs losers de mari sont des gros salauds qui trompent leurs femmes.
Ouais.
Elle explique que le seul espoir qu'elle avait.
Oui, ça c'était pas mal.
C'était
pas mal et puis
elle explique qu'elle avait qu'un seul modèle dans la vie et
dans
que
bien,
dans le
bien
c'était dans le bien le perdre.
On part d'un postulat qui est un peu terrible qui est c'est mal de coucher avec des gens mariés, mon Dieu quoi, vive la vie. Et non, il vaut mieux rester dans un mariage pourri et ne pas tromper sa femme ou divorcer. C'est un peu, enfin Véronica elle a 20 ans, elle est à la fac. Ben si,
non.
C'est ce que surtout, elle dénonce quand même l'hypocrisie de son père qui, pour gagner sa vie, passe son temps à espionner des gens, des femmes infidèles et des maris infidèles, et pour gagner $500, va filer des photos au conjoint. Et lui, il fait exactement la même chose et il trouve ça tout à fait normal, alors qu'il se gêne pas pour se placer dans une position de supériorité morale quand lui...
Il n'est pas du tout dans une position de supériorité morale, il est juste l'intermédiaire, il est juste...
Il fait le boulot qu'on lui demande de
faire,
il ne va pas dire
que
c'est bien ou que c'est pas bien. C'est là où je trouve que...
Après, la décision, elle appartient justement à la personne qui reçoit les photos. Ok, elle sait que son mari trompe, après c'est la personne qui va prendre la décision de montrer ou pas ses photos, d'agir ou pas en conséquence. Le métier de détective privé n'a rien de déshonorant. Et Véronica, je la trouve, mais vraiment... décevante de ce point de vue là, parce que elle met des points de vue moraux là où il n'y en a pas. Enfin,
ouais.
Son père, ça fait combien de temps qu'il n'a pas éprouvé le moindre sentiment amoureux? Ouais, pour la mère
de Wallace.
Ouais, la trine est finie en eau de boudin. Elle m'a énervé. En plus, j'adore comment elle s'appelle, la Maya, que j'aimais pas du tout dans
Giacomo.
Le couple était formidable.
Lara San Giacomo, c'était l'héroïne de Just Shoot Me.
Mais on la reverra, elle va se faire assassiner et puis qu'il devra enquêter. Ou alors son mari se fera assassiner, elle se fera accuser et qu'il devra enquêter. Enfin, je refuse de croire que cette intrigue a été mise là juste pour que Kiss fasse quelque chose pendant 3 épisodes et que ça s'arrête. Si c'est le cas, effectivement,
mais
c'est
je trouve
un peu
que Véronica tombe dans... Enfin, nous donne des scènes quand même super clichés. Alors, je vais pas recommencer un monologue très énervé sur l'accident de voiture, qui est quand même, je sais pas, c'est digne de Smallville, un truc comme ça. Un accident de voiture pour lui faire rendre compte
qu'il est mortel.
Et qu'il est mortel, voilà, c'est ça. Comme... Ah, mais c'était,
C'est mon côté neuneu, mais j'ai adoré, moi. Je l'ai même pas vu venir.
C'est d'un ridicule.
Moi j'ai pas adoré, mais enfin c'est un cliché, mais c'est un cliché qui dure 5 secondes dans un épisode.
Ah ouais,
et finalement
mais
c'est juste
gros,
un déclencheur pour lancer une intrigue que moi j'ai trouvé plutôt intéressant dans les épisodes suivants. Mais,
mais Véronica nous a habitué à des déclencheurs qui étaient quand même vachement plus subtils.
Non, ce qui aurait dû être un certain cliffhanger et que la résolution ça aurait été bah non finalement il a bien. C'est même pas.
Ça à la limite j'aurais trouvé ça moins ridicule.
Ils ont sous-joué le côté de l'accident.
Ouais parce que moi
j'ai trouvé l'accident très bien fait.
Moi j'ai trouvé qu'il allait mourir, enfin j'ai cru qu'il allait sortir de la voiture et donc j'étais rassuré, mais effectivement j'ai quand même été super énervé par cet accident et surtout par la conclusion parce que il avait pas besoin de ça pour se dire il faut que je profite de la vie, il faut
voilà,
que
l'accident en lui-même est très bien fait au demeurant.
Si j'aurais pas trouvé ça crédible s'il couchait avec une femme mariée sans avoir eu le déclencheur avant. C'est pas le personnage qu'on connaît depuis.
C'est
dans
une femme mariée, c'est aussi j'allais dire sa patiente. C'est aussi ta cliente, il y avait quand même un petit côté moral, qu'il soit justifié ou pas,
oui,
à ne pas être avec elle.
Et puis surtout, Keith a quand même été, enfin, il a quand même beaucoup souffert du fait que sa femme l'avait trompé et qu'il ne savait même pas s'il était le père de sa gamine ou pas. Enfin, je sais pas, ça me paraît logique qu'il n'ait pas pu directement.
Oui, qu'il fallait quelque chose. Et
qu'il ait fallu un déclencheur pour expliquer.
Mais il y a trop de facilité cette saison dans Véronica
ouais.
Mars, à la fois la façon dont lui sont apportées les intrigues dans lesquelles elle doit découvrir les mystères. Genre, ah tiens, je suis là au bon moment, et ah bah tiens, Véronica, si on enquêtait là-dessus. Ouais, super. Et le coup du GHB, là, quand elle se prend le GHB dans son verre, j'ai pas bien compris pourquoi elle se lève, elle va dans un parking souterrain
oui.
toute seule.
Parce qu'elle n'a pas réalisé, je pense que.
Bah,
elle a juste eu la tête qui tournait
et qu'elle prend sa voiture. Pour,
ah non, bah,
elle
est vraiment plus conne que
d'habitude.
Elle
est dans la cafétéria,
elle
voit qu'elle va pas bien, elle sait ce qui se passe.
En voix off, elle nous dit oui, j'ai déjà ressenti.
Non, non, ça, elle le dit dans le parking.
Oui,
mais
on
l'a dit au
final, elle juste un moment, elle a la tête qui tourne, bah tu te mets pas à crier au viol dès que t'as la tête qui tourne.
Non, mais tu vas
pas
dans un parking.
Non, mais elle était pas en soirée, elle était dans le cafétéria, elle était a priori toute seule, elle s'attendait 2 minutes de sa table.
Mais là, c'était le souci que j'ai pu penser pendant que je regardais, c'est une facilité, même si, enfin, je sais pas,
je sais pas, moi je trouvais que c'était assez astucieux parce que ça montrait un qui avait vraiment la menace du violeur qui était vraiment présente et que...
Voilà, parce que la menace, on la ressentait pas du tout dans les épisodes précédents et c'était assez...
Même si au début, on a fait par cœur une victime, le fait qu'on revoit plus trop par cœur après et qu'on la connaît vraiment pas, on a un peu de mal à...
Non mais l'idée en elle-même de faire subir un viol à Véronica ou en tout cas
une tentative de viol,
j'ai trouvé ça excellent parce que ça permet de relancer le truc, d'avoir un peu plus de passion pour la storyline. Mais il y a toujours des questions comme ça qui... parking souterrain, l'accident... Dans le dernier épisode, elle se balade... Non mais c'était Smallville. Elle se balade dans je crois que ça devait être dans une rue à côté de la bibliothèque et il y a de la fumée au sol. C'est le genre de détail qu'on n'aurait jamais eu dans la saison 1 ou la saison 2.
De la fumée au sol.
Il y a de la fumée au sol. Tu sais, il y a un petit brouillard genre ou un pétant.
Ah. Moi je sais pas, moi maintenant j'ai peur devant Véronica Mars depuis que j'ai cru qu'elle allait se faire violer dans l'épisode d'avant. Donc, ça met dans l'ambiance, je trouve.
Je trouve qu'ils n'ont pas besoin de brouillard pour mettre dans l'ambiance, quoi. Ils savaient nous prendre par les tripes bien mieux avant.
Ouais, mais encore une fois, c'est du détail. Enfin, c'est un plan où tu vois un peu de brouillard, effectivement, on aurait pu s'en passer, mais c'est pas ça.
Non, mais en même temps, on le verrait pas, ou alors on penserait que c'est un cliché, si le reste était vraiment très bien.
Et Véronica Mars, ça ne doit pas être une bonne série, mais Véronica Mars, ça doit être génial tout le temps.
Voilà.
Ça l'est plus, c'est nul, poubelle. Comme Gilmore Girls, poubelle aussi, on est tous d'accord.
Ouais.
Oh, ouais, oh.
Ah non.
Mais on va pas trop en parler, parce que...
Oh, bah, allez-y.
Donc, Tigrou n'a pas encore rattrapé tout son retard. Pourtant, il sait que Lorelai est avec Christopher et que c'est l'amour.
C'est un peu ça, hein.
Mais en fait, non, c'est pas vraiment l'amour, puisqu'elle s'est mariée.
Quand
mais...
elle dit qu'elle est contente, en fait, elle tire une tronche de 3 km.
Et puis tu sais aussi, à Rory, elle s'est mariée sur le tir à Rory.
Non,
alors
ça va, non,
mal,
je trouvais ça plutôt pas mal. Je trouvais ça très réaliste. Le dernier épisode, je l'ai trouvé, je vais ruiner ma review, je l'ai trouvé crédible. C'est le mot qui m'est venu. Toutes les storylines, la représentation du père et de sa fille avec Luc et April. Le côté, enfin Rory n'est pas contente de ne pas avoir été invitée au mariage. En même temps, dans un sens, elle comprend sa mère. Et c'est vrai que ça prend tout l'épisode et qu'on peut dire tout ça pour ça. Mais en même temps, c'est super crédible. Nous, à sa place, on aurait réagi exactement de la même manière.
Ce que j'ai adoré dans cette scène, c'est que ça montre très bien la relation qu'elle a avec Christopher et
ouais.
la relation qu'elle a avec Lorelai. Ok, Christopher, c'est son père, mais elle sera jamais aussi proche de Christopher. Et elle préfère plutôt lui mentir.
Ouais. Mais comme un père en fait.
Ouais,
alors
qu'avec
Lorelai, vu qu'elle a ce côté meilleure amie, elle peut absolument se permettre de lui balancer à la gueule qu'elle lui en veut et qu'elle aurait pas dû faire ça.
En même temps, Christopher est plus tard dans l'épisode est limite vexé du fait que
ouais.
Rory n'ait pas été franche avec elle.
Je trouve que c'est un bon filon à exploiter parce que
exactement.
C'est vraiment très.
Parce qu'il lui dit maintenant c'est plus pareil, maintenant on est mariés, maintenant
ouais.
On est vraiment un couple.
Oui, mais
et
il y aura toujours le couple Lorelai Rory qui sera plus fort que. Parce que c'est, alors, certains me diront, parce que c'est sa fille, donc il l'aime forcément. Moi, je dirais tout simplement parce qu'elle s'est retrouvée dans l'épreuve et qu'elle avait Rory et qu'elle a pu développer une relation avec elle qui est extrêmement particulière et qui pourra très difficilement être dépassée, même par Chris, quoi. C'est pas possible.
Non, moi, j'aime
bien. J'ai trouvé ça très bien traité, ouais.
Non, je trouve que cette storyline, j'étais pas très très chaud avec l'idée du mariage. Je trouvais que c'était un peu trop rapide, et surtout qu'on sort
débile.
D'une intrigue de mariage en saison 6. Mais
Non, l'épisode qui suivait était très bien réalisé.
Et j'aime beaucoup Rory cette saison.
Ouais, elle est vraiment... elle est aimable, quoi. Enfin,
on retrouve un peu la Rory d'avant, même si j'ai aimé la saison 6.
Et puis alors, maintenant, elle sait comment se servir de son corps.
Oh non, comment je sors.
Si.
Et puis elle a des
je
amis maintenant.
Mais
elle
oui.
a pas que Paris, elle a des amis, elle a des gens avec elle.
Non, c'est... Il y a des très bonnes choses, mais il y a... Là, à part le dernier épisode, oui, il y a eu 2-3 épisodes là qui étaient un peu faibles quand même. L'épisode de Paris... Heureusement qu'ils se sont rattrapés avec le dernier.
Non, moi je suis un mauvais juge parce que je crois que j'ai aimé tous les épisodes de Gilmore Girls, il n'y en a pas un qui m'a déchu.
Non, mais c'est meilleur que la saison 6 quand on est d'accord.
Mais donc voilà. Gilmore Girls...
Moi je sais plus pourquoi j'aime pas cette saison, mais je l'aime pas.
Non,
ouais, c'est chiant.
Nous, on parle de trucs importants, de trucs bien de Survivor.
Ouais, Survivor qui est... dont c'est la meilleure saison depuis quasiment Survivor Amazon, quoi, depuis la saison 6.
Ah, c'est Pearl Island, c'est bien.
Ouais, mais dans Pearl Island, il y a le twist abominable qui fait que ça
ouais,
ne va pas être une
vrai,
bonne saison.
Vrai.
Et donc, dans cette saison, à chaque épisode... donc, cette saison, c'est la saison... inique sur les races, là où c'était mal parce qu'on les avait séparés en races. Et en fait, ce qui est plutôt bien, c'est qu'ils sont allés chercher des concurrents qui n'avaient pas postulé. Ils ont pris des concurrents intelligents qui s'investissent dans le jeu. Et tous ceux qui restent, une grande partie de ceux qui restent, sont vraiment en stratégie à fond. Et à chaque épisode, c'est retournement de situation sur retournement de situation. N'est-ce pas, Dan?
Ah non, mais tout à fait. Je vais repiquer un argument à juste. C'est que là, cette année, on est dans le même cas de figure que l'année dernière. Il y a quelqu'un qui a trouvé... l'immunité idol assez rapidement sur Exile Island et contrairement à Terry l'année dernière, il s'en sert mais vraiment vraiment bien. Là on va même peut-être se finir avec une finale à 5 où les 5 personnages ouais, les 5 personnages sont tous intéressants et on est vraiment content qu'ils soient en finale, il n'y aura pas de boulet.
Ce qui est vrai c'est que cette année je trouve que tous les personnages sont intéressants, c'est-à-dire que il y a ceux qu'on déteste vraiment, genre Candice et son copain, on a envie de les voir partir, mais en même temps, ils sont tellement énervants que c'est plutôt positif, parce que dès qu'on les voit dans l'épisode, on a envie de les voir souffrir. La semaine prochaine, on sait qu'ils vont être affamés par l'équipe, on attend ça avec impatience. Et à côté, il y a des personnages qui sont quand même plutôt sympas, enfin, l'équipe de... C'est Raro ou c'est Aitou qui avait plus que 4 membres. Aitou, les 4 derniers membres étaient quand même très sympas. J'avais pas du tout envie de les voir éliminés. J'étais terrifié à l'idée que Sandra puisse se faire éliminer dans le dernier épisode.
Ah, c'est clair, c'était abominable. Mais surtout mais, Jonathan.
Et ce qui est bien.
Mais Jonathan, ouais. Jonathan, il est super bien utilisé.
Mais voilà, c'est ça. Voilà. Il est vachement bien utilisé, il sert à quelque chose.
Et ce qui est bien, c'est que souvent dans les épisodes de Survivor, il y a
il y a ces débuts d'intrigue où on se dit il y a de la stratégie qui va être mise en place, etc. Il y a quelque chose qui va se passer, et en général tout tombe à l'eau parce qu'il y a un boulet qui décide de pas jouer le jeu, il y a quelqu'un qui... Alors que cette année, tout fonctionne, dès qu'il y a une stratégie, il y a le retournement à la fin, on ne sait jamais trop ce qui va se passer, les twists fonctionnent, on change d'avis sur les personnages. Enfin, Candice, moi j'aimais beaucoup beaucoup au début, hein. Je la trouvais plutôt intelligente, assez forte pour une candidate de sexe féminin dans les épreuves. Mais et là, au contact du débile mental là, qui est Adam, mais elle devient de plus en plus débile à chaque épisode. Je trouve ça assez fascinant que l'évolution de ces personnages-là. Mais ils sont tous vachement bien.
Ouais. Alors que la débile de service, qui est Parvati justement, et ben elle est plutôt rigolote d'épisode en épisode. Elle joue son rôle de bimbo qui fait que allumer les candidats de sexe masculin, c'est sa seule stratégie, et c'est quand même plutôt rigolo, moi je trouve.
Non, mais puis voilà, c'est une saison où les gentils gagnent, ça fait trop du bien.
Et outsider.
Hein, Lisa, t'es d'accord avec nous?
Absolument.
Parce que tu regardes pas Survivor?
Non.
C'est bien.
Tu regardes.
Ouais, je sais. En moi j'avais commencé, hein, mais je vais m'y mettre.
Mais rassure moi je trouve pas que la réalité c'est vrai.
Non, on est bien d'accord. Hein. Non.
D'accord, très bien. Mais on a parlé
donc,
de quoi,
je crois qu'il ne manque plus que l'épisode du mois de la semaine.
Que nous pouvons lancer tout de suite avec Lisa qui n'a pas beaucoup parlé sur Survivor.
Mais justement, j'étais en train de réfléchir et je me disais que j'allais peut-être boycotter en disant que cette nouvelle saison, elle était pas terrible. Il n'y a pas énormément de très bonnes séries, même aucune, j'ai envie de dire.
Il y a des séries sympas.
On regarde pas la même télévision.
Il y a des séries sympas. Mais
J'ai la tronche de Tingen dans la parodie de Mathilde.
Ah, c'est ça que j'allais dire. Bon, mais du mal à mettre une émission à sketch.
Non, mais il y a
je
des...
ne
non, non, mais
pas
y a
trop
des bonnes
ce que
séries,
nous dit Lisa.
Mais il y a, je sais pas, il y a rien qui
ouais.
me...
Il y a des bonnes séries.
Il y a des bonnes séries, il y a des très
suis,
bonnes séries. De côté intelligent, on va dire Studio 60, côté un petit peu plus loufoque, il y a Ugly Betty qui continue de me faire mourir de rire toutes les semaines. Mais il n'y a rien d'enthousiasmant, quoi.
Non, on n'a pas la même perception, parce que moi, justement, je trouve que cette année, toutes les séries que je regarde, c'est vraiment des guilty pleasures, c'est-à-dire que ça vole
ouais,
pas
bah
forcément
voilà.
très haut, mais c'est des séries qui ont de très bons dialogues, de très bons acteurs, et je suis vraiment content de me mettre devant ma télévision pour la regarder. Alors que l'an dernier,
non, mais
pas
je me mets
chose,
pas devant ma télé pour regarder des guilty pleasures toute la semaine, quoi.
Mais c'est pas des guilty pleasures, enfin, Brothers and Sisters, pour moi, c'est pas une guilty pleasure,
ah,
enfin, c'est vraiment une grosse réussite dans le genre.
Ouais, c'est une réussite. Tu sais qu'il y a matière à améliorer,
ouais.
mais tu prends quand même beaucoup de plaisir sans être guilty à regarder la série.
Oui,
il n'y a plus de matière à améliorer Brothers and Sisters. Enfin, je vois pas ce qu'on pourrait améliorer dans la série.
Bah, ils peuvent continuer à faire monter la tension comme ils le font depuis quelques semaines et ça sera très bien. Et ils peuvent donner plus de texte à Rachel Griffith qui dans le dernier épisode justement a enfin une petite occasion de montrer qu'elle a du talent et qu'il s'en sert plutôt bien.
Elle est mortelle dans le dernier épisode. Dans même temps... Ah c'était juste...
Moi j'ai dit que c'était... Pour une fois ce serait pas ma TV mais ça fait un live avec Alec Baldwin.
C'est vrai, non là c'est vrai. Bah, je vais dire la même chose alors.
Bien.
Ah,
ouais. Bien. SNL qui a subi une grosse réduction de casting cette année. Parce que Lorne Michaels, le producteur de la série, avait le choix entre faire moins d'émissions ou virer un gros tiers de son casting. Il a préféré virer les gens. Okay. Et c'est pas si mal parce que. Non, il a trouvé son parce que ça veut dire.
Mais
que...
C'était un peu l'intrigue de Studio 60 cette semaine aussi.
Tâche !
Entre autres, ouais.
Avec la mort d'Amanda Pitt,
c'est sûr.
Qui s'est fait violer par Véronica.
C'est pour ça qu'elle est enceinte.
Donc ils ont décidé de continuer, mais avec effectif réduit. Et ça permet à Kristen Wiig d'avoir plus de matériel.
À qui?
Kristen Wiig.
On l'aime beaucoup, Kristen Wiig.
Personne ne la connaît, mais
pas
les
J'adore son nom. J'adore son nom.
Et... bah là, 2-3 sketchs cette semaine qui étaient très très drôles et avec Alec Baldwin qui était fantastique, c'était le meilleur SNL que j'ai vu depuis que je regardais SNL, ça veut dire maintenant depuis le début de la saison. Donc c'était ça mon épisode du mois de la semaine.
Bravo.
Et toi Tigo?
Bonne question, alors cette semaine c'était les sweeps, donc j'ai adoré à peu près tout ce que j'ai vu. Maintenant, l'épisode qui m'a vraiment le plus marqué, c'est peut-être Grey's Anatomy. C'était vraiment très
ouais.
très bon cette semaine.
C'est vrai.
Alors, je ne vais pas raconter, mais disons qu'ils arrivent ils arrivent à intégrer tous les personnages à une même intrigue, alors filer à tous de très bonnes scènes. Pour une fois, la série est un peu plus dramatique que d'habitude et ça fonctionne, alors que dans Grey's Anatomy, le drama, ça fonctionne pas forcément. Et de toute façon, cette troisième saison de Grey's Anatomy est plutôt de très bonne facture,
oh, oui.
puisque la série s'assume, mais c'est jouissif à chaque épisode.
C'est pas enthousiasmant,
bon,
ah, mais au contraire, enfin, je trouve ça enthousiasmant que les séries s'améliorent, que des séries qu'on adorait, qui étaient devenues des grosses bouses, reviennent à leur meilleur niveau. Desperate Housewives cette saison, c'est vraiment super bien. Il y a plein de séries qui m'enthousiasment. Il y a la saison 4 de The Wire sur HBO qui est diffusée chaque dimanche, qui est exceptionnelle. Et puis il y a Friday Night Lights, il faut absolument regarder l'épisode 5. En gros, à la minute 18, vous avez pleuré. Car dans tout le match de la 27e à la 34e minute, vous avez pleuré. Et puis à la fin, il y a un cliffhanger, vous avez pleuré aussi. Non, c'est horrible, c'est vraiment super bien. Voilà. Les autres se bouchent les oreilles et
voilà.
se font « Ouais, je regarderai la série un jour, puis ils préféreront regarder une rediffusion d'une vieille émission de sketch tout pourri. Ou alors regarder Ugly Betty en disant qu'il n'y a rien d'autre de bien à la télé.
J'ai pas dit qu'il n'y avait rien d'autre de bien que Ugly Betty à la télé.
Non. J'ai pas tué avec Grey's Anatomy.
Si, je regarde, j'aime bien même.
Et toi, Gégé, c'est quoi ton épisode?
Il aime bien, c'est pas grave.
Ah oui, je t'écoutais pas, c'est vrai.
En même temps, c'est Gégé. Bon, bah, je crois qu'on a fini alors. Hein.
Oui. Bah, bonne soirée. Si vous regardez,
ouais.
si vous nous écoutez le soir.
Bon voyage en arrière, si vous nous écoutez dans les transports.
Je crois que c'est à peu près tout. Bonne matinée, si vous nous écoutez le matin dans le RER.
Et regardez Brothers and Sisters, c'est vraiment très bon.
Ouais, regardez les nuits du vendredi soir, de la lumière, c'est super aussi. Et googlez Kristen Wiig et vous verrez que c'est une fille super drôle.
Moi, je suis blasée, hein, donc regardez rien.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.